Faire une introduction à la pratique de la méditation, pour moi, c'est un peu comme un morceau de musique qu'on rejouerait chaque fois, mais qu'on peut rejouer différemment. Donc, essayer de décrire cette pratique qui n'est pas un élément de technique. Si c'était la technique, bien, on aurait vraiment une sorte de, voilà, de petit manuel et il suffirait de lire le manuel en donnant les différents aspects de la technique, mais ce n'est pas ce dont il s'agit. C'est plus une sensibilité. Ce qui veut dire que, en parlant de méditation, on essaye de rendre compte de cette sensibilité, d'éveiller à cette sensibilité. Donc, je crois que c'est l'aspect intéressant, créatif, mais aussi, évidemment, qu'il y a moins de garde-fous. Il s'agit d'essayer de trouver cette manière, dans le fond, de faire sentir ce qu'est la méditation dans le sens vipassana, comme nous l'enseignons ici. Évidemment, nous questionner aussi sur notre mode de vie habituel. C'est pas qu'il y aura des défauts qu'on les critiquerait, mais pourtant avoir un regard quand même qui nous permet de voir où il y a quand même peut-être des manques et que la méditation pourrait nous permettre de répondre à ces manques, peut-être de découvrir quelque chose d'autre. Qui est évidemment la raison pour laquelle nous sommes ici, découvrir d'autres choses, pas simplement pour continuer ce que nous faisons dans la vie quotidienne. Donc, si nous suivons les philosophes, les mystiques, les yogis, les yoginis, je crois que tous ont un peu le même discours, la même vision, c'est que nous sommes dans le fond à une certaine distance de notre vie. Nous vivons à distance de notre vie. Dans le fond, nous passons à côté de notre vie. Et ça se voit parce que nous sommes constamment préoccupés par le passé, par l'anticipation de ce qui pourrait surgir dans l'avenir, constamment, dans le fond, dans une sorte de lecture de la vie plutôt que de la vivre elle-même. Et cette lecture, souvent basée sur les choses du passé, on revient sur le passé pour essayer d'en tirer peut-être certains enseignements, et puis on anticipe le futur, donc étant constamment complètement affairé. D'ailleurs, de plus en plus, on a l'impression que ça va de plus en plus vite. Nous sommes affairés, il y a toujours des choses à faire, et puis on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire dans le fond, s'affairer, des choses à faire, et pourquoi nous sommes pris dans ce dynamisme de choses à faire. D'une certaine manière, évidemment, si nous nous affairons, s'il y a des choses à faire, c'est que certaines choses n'ont pas été faites, elles ne sont pas accomplies. Donc il faudrait pallier à ces manques qui sont là dans notre vie, essayer de trouver une solution. Donc il y a des choses à faire pour essayer de trouver une solution. Il y a des choses à faire, ben, ça peut être quelquefois dans des de manière assez simpliste, de croire qu'en accumulant plus de, je sais pas, plus de biens, plus d'expériences, je sais pas, sportives ou autres, ou affectives, enfin amoureuses, je sais pas, chacun a ses milieux de prédilection, ou je sais pas, d'avoir une nouvelle voiture. Enfin, évidemment, vous connaissez toutes ces manières pour lesquels on s'affaire, dans le fond, en croyant qu'il faut faire ceci ou cela. Souvent, ce n'est pas exprimé de manière aussi grossière que je le fais. Ce n'est pas, voilà, c'est pour accumuler, etc. Néanmoins, c'est quand même pour essayer de pallier un manque, quelque chose qui n'est pas là, qu'il faudrait trouver. Et cette manière de le faire, dans le fond, fait que constamment, nous nous projetons dans le projet à accomplir, en essayant d'amener une réflexion sur ce qui est de l'ordre du passé, ou alors on se perd dans les réflexions sur le passé. Donc constamment affairé, constamment perdu dans le faire, où finalement l'idéal serait d'être un outil plus performant. C'est assez fascinant, cette manière de croire que si on est un outil plus performant, on gagnerait quelque chose. Outil plus performant, on peut voir dans beaucoup de professions, ou quelquefois même ça, on demande les entretiens, je ne sais pas, avec les ressources humaines, quels sont vos projets, font des projets d'amélioration. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette manière de dire comment est-ce que vous pouvez être plus efficace, être un meilleur outil, être plus utile à l'entreprise. Donc on entend ça quelquefois dans les entretiens. C'est quand même assez surprenant, mais ça c'est juste une manière très particulière d'exprimer ceci, même si ce n'est pas exprimé d'une manière aussi caractéristique, c'est quand même un peu ce dont il s'agit. Donc, affairer pour accomplir quelque chose qui, dans le fond, qui nous échappe. Qu'est-ce qu'il s'agit d'accomplir dans le fond? Où est ce manque? Ben, ce manque, c'est justement la vie qui nous échappe parce que nous ne sommes pas dans la vie. Nous sommes toujours en train de l'éviter, dans le fond, par cette activité. Perdu dans l'imaginaire. La vie, on ne peut pas la vivre au passé ou au futur. Elle peut se vivre que dans l'instant. Une vie passée. Vécu au passé ou dans l'avenir, c'est de l'imaginaire, c'est une vie imaginaire. Alors ça paraît ici assez surprenant. Néanmoins, je reviens sur les philosophes, les mystiques, les yogis, les yoginis, et puis il n'y a pas que, évidemment, beaucoup de poètes diront les mêmes choses. Et cette manière d'être constamment en train de courir après la vie, dans le fond. Alors que dans le fond, c'est la vie qui court après la vie, donc on aura de la peine à la rattraper. Cette manière de courir après la vie, elle a un coût extrêmement élevé. Ben, ça coûte la vie. Courir après la vie, et le coût, ben, c'est la vie. On passe à côté. Si c'est pour passer à côté de la vie et courir constamment après, pourquoi la prolonger? On essaie de la prolonger le plus possible. De toute façon, ne pas être dans la vie, donc ça sert à vraiment à rien de la prolonger, parce qu'on n'est pas dedans. Maintenant, pourquoi est-ce que ça serait intéressant d'être dans la vie plutôt qu'à côté? À quoi ça sert? C'est bien beau, ça, être dans la vie, mais enfin bon, ça, c'est des slogans, quoi. Des slogans je sais pas, de la religion, des psys, etc. Faut être dans la vie plutôt que d'être à côté. Mais parce que dans le fond, le fait d'être dans la vie, on verra, ce n'est pas une bonne formulation. C'est parce que c'est là que se trouve ce pourquoi nous nous affairons. C'est lorsque nous sommes en phase avec la vie que là se trouve une pleine satisfaction, la plénitude et la liberté. On croit qu'il faudrait la trouver ailleurs, on cherche ailleurs la plénitude et la liberté, alors qu'elle est justement là et c'est. Dans le fond, constamment en sortant de ceci, on sort de cette plénitude et de cette liberté en croyant qu'elle se trouve ailleurs. Il y a quelque chose d'assez touchant et dramatique dans ce fait qu'on cherche ailleurs ce qui est déjà là totalement. Et on peut le chercher avec beaucoup d'assiduité, beaucoup d'intensité. Donc la méditation, c'est une attitude qui vise justement à découvrir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que cette vie dans le fond. Cette vie qui, comme je l'éprouve, semble être pas vraiment satisfaisante. Il y a un manque, il y a quelque chose. Il n'y a pas vraiment de liberté, il n'y a pas de plénitude, peut-être quelques instants particuliers, mais. Donc pourquoi, où trouver ceci? Ben dans le fond, ceci se trouve déjà, toujours déjà là. Et plus on le met comme projet pour essayer de l'atteindre, dans le fond, plus on s'épuise, et moins, dans le fond, on touche justement ceci. Maintenant, j'ai dit être dans la vie, c'est une manière un peu ambigu de parler parce que nous sommes la vie, on ne peut pas être dans la vie, nous sommes la vie elle-même. Toutes nos expériences, chacune des expériences qui nous traversent, c'est notre vie. On n'a pas à se mettre dedans. On ne sait pas qui on mettrait dedans, il y a juste la vie qui est là à chaque instant, dans chaque expérience. Donc tout est toujours déjà là. Mais on regarde ailleurs. On regarde ailleurs, puis on dit il manque quelque chose. Et plus on regarde ailleurs, plus il y en manque. Donc il ne s'agit pas, comme on l'exprime des fois, d'être dans le présent, parce que le présent c'est quelque chose de purement abstrait, on n'est pas dans le présent, il y a à chaque instant quelque chose qui surgit, qu'on éprouve. Ça peut être la tranquillité, le calme, la joie, ça peut être la confusion, ça peut être la frustration, la somnolence, mais ce courant d'expérience, c'est ça la vie. Et il ne s'agit pas pour nous de trouver la méditation à l'extérieur de ceci. Si nous nous faisons un idéal de ce que devrait être la méditation, calme, tranquille, etc., à ce moment-là, la vie, on la réduit à quelque chose d'immensément limité. Et puis, si ce n'est pas ce qui surgit dans la méditation, alors on est à côté. Donc, de développer cette attitude de curiosité qui va être d'essayer, d'explorer ce qui se passe à chaque instant, sans a priori, sans préjugés. Qu'est-ce qui se passe là? Comment la vie se manifeste-t-elle en cet instant? Avec cette confiance, au moins à titre hypothétique, vous pouvez toujours dire, oh, Charlie nous raconte des histoires. Peut-être bien, sûrement d'ailleurs, mais au moins d'essayer de s'ouvrir à ça. Beaucoup l'avaient déjà fait à nombreuses reprises, de dire tiens, et dans le fond, qu'est-ce qui se passerait si je peux être là dans ma vie, pour employer ce terme assez ambigu, à cet instant, avec ce vécu qui manifeste la vie, ce vécu de somnolence, d'agitation, d'inquiétude, d'impatience, de joie, de tranquillité, de calme. Donc l'indication pour la pratique, dans le fond, n'est pas de faire des choses compliquées. On n'a pas à faire des choses compliquées, mais de comprendre quelle est cette attitude. Et lentement, je crois qu'on peut développer une certaine confiance que cette attitude, dans le fond, elle est d'une immense richesse. Et que cette attitude de s'ouvrir à l'expérience présente, et bien l'expérience présente, et bien si on s'y ouvre sans préjugés, sans a priori, sans non plus s'y accrocher, ben tout d'un coup on découvre qu'effectivement la plénitude ou la joie, appelons ça pour l'instant comme ceci, c'est toujours déjà là. Et que ceci s'accompagne aussi d'une liberté, puisque ce qui est là ne dépend de rien d'autre. Ça ne dépend pas d'une expérience particulière, d'une technique particulière. Je crois qu'une des compréhensions touchantes dans la méditation, c'est de se rendre compte justement que notre être, ce que nous sommes, est déjà là en tant que plénitude et liberté. Si nous sommes sans préjugés, sans a priori, ce qu'on pourrait dire, ce qui permettrait de vouloir situer un présent, si on voulait situer ceci, c'est pas le présent qui va nous donner accès à la réalité, c'est la réalité, l'expérience réelle qui n'est pas imaginaire, ni lors du souvenir, ni lors du projet, c'est cette expérience réelle qu'on va pouvoir appeler l'expérience présente. Et c'est pas parce qu'on est présent qu'on découvre la réalité, mais c'est l'expérience réelle, parce qu'elle n'est pas imaginaire, qui à ce moment-là qu'on peut appeler, ça c'est l'expérience présente. Donc, sans renverser les priorités. Donc, quelles que soient les expériences, évidemment, pendant ces jours de retraite, nous avons parlé à nombreuses reprises de tous les aspects, donner quelques éléments, quelques repères, évidemment, pour savoir comment s'y retrouver, même, même des zones d'ancrage pour quelquefois, il semble qu'on soit submergé par des projets, des pensées, et puis ça nous aide à avoir une sorte de sphère d'ancrage qui sont des expériences qui surgissent à chaque instant. Donc ne pas être constamment dans le faire, faire, ni faire la méditation, mais plutôt dans l'être. Être là à chaque instant, à travers chaque vécu. Si on voulait paraphraser le Dhammapada, hein, en texte classique, on pourrait dire, ne vous laissez pas leurrer par le souvenir. Le souvenir, c'est comme s'il nous donnait accès à quelque chose de réel, plus ou moins. C'est plus là, mais enfin, ce plus, il ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire, plus là? C'est là ou c'est pas là? Non, mais c'est plus là. C'est une sorte de statut spécial, quoi, entre les deux. Le passé, il a juste disparu. Mais le souvenir nous le fait apparaître comme une sorte de réalité. Alors que la réalité, c'est la réalité, que le souvenir est présent. C'est là, ce que nous éprouvons, c'est un souvenir. C'est une expérience, un souvenir, ce n'est pas un problème. Mais si nous nous laissons happer vers le passé, ce à quoi le souvenir semblerait nous donner accès, à ce moment-là, on se leurre. On n'est pas conscient qu'on n'est plus dans l'expérience présente, on est perdu par ce que l'histoire nous raconte. De même pour le projet, le souvenir, pardon, l'avenir. Ne pas se laisser happer non plus. Je peux faire un projet en cet instant, mais si je me rends compte que, tiens, c'est en cet instant qu'il y a un projet. Je suis là dans la réalité du fait de me rendre compte que je suis en train de projeter. Ce n'est pas la même chose que si je me crois déjà à un autre moment. Simplement, rester dans l'expérience présente, telle qu'elle se présente, telle qu'elle se manifeste. Nous reviendrons évidemment là-dessus. Et on verra donc que dans cette exploration, il y a évidemment aussi une mise en jeu du corps en tant que présence, pas en tant qu'objet d'observation. On peut être à côté de la vie, on peut être aussi à côté du corps en tant que corps qu'expérience vivante, en train de l'observer, de le manipuler. Mais ce qui, dans la méditation, nous intéresse, c'est de le vivre, un corps vécu, un corps vivant à chaque instant. À ce moment-là, il est aussi lieu de plénitude et de liberté. Voilà quelques réflexions. On reviendra là-dessus, Patricia et Sandrine aussi, pour préciser certaines choses. Je voulais juste essayer d'évoquer un petit peu cette sensibilité de cette attitude méditative qui n'a rien à chercher à l'extérieur de ce qui se passe dans l'instant, mais découvrir la richesse et aussi la liberté qu'il peut y avoir dedans.